La cronica di letteratura paesana presentata per Mahmoud Alaya. Les femmes paysannes dans la deuxième moitié du XXe siècle, vues par Claudie Motte-Gotteron. Pardon. Alors, Mahmoud, bonsoir. Bonsoir.
Bonsoir.
D'un premier, alors, quelle est aquel Claudie Motte-Gotteron?
Oui, d'abord, je vais dire quelques mots en occitan.
Ah.
Hein? Vous va par là. De nos paysans de Gascogne, don Claudio Motte-Gotteron. Claudio est à l'encore paysan, écrivain et artiste. Et de fait, comme pauso, écrit et interprète des cançons, et mai de tout à coup, peintre d'aquarelles plat polidos.
Grand merci. Bah, qui donc est une paysanne qui nous vient de Gascogne. Alors, mai pris un domaine pour nous situer un peu.
Oui, alors.
À quelle Claudie?
Qui est Claudie? Claudie, elle est née à Bazens, en Lot-et-Garonne, dans une famille paysanne, pauvre. Son père exploitait 3 hectares de vignes et autres cultures. Et sa mère tenait l'épicerie du village. Elle a été élève au collège Sainte-Foy à Agen, puis de Sainte-Geneviève à Stafford. Elle a poursuivi des études de monitrice d'enseignement ménager à l'école des cadres de la Roitère, près de Castelnaudary. Elle reviendra d'ailleurs enseigner 2 ans à Stafford et 1 an à Condon, dans le Gers, où elle se marie. Alors, elle est mère de 4 enfants, mais elle ne peut pas se contenter de rester dans sa cuisine. Alors, elle écrit. C'est une parfaite autodidacte. Elle a écrit une 20aine de manuscrits, dont 6 ont été publiés à ce jour. Et chaque roman, c'est une étape de sa vie de femme. Elle observe, elle écoute, elle enregistre dans son cœur. Elle s'inspire du parcours de ses voisines, de ses amis, et elle écrit pour témoigner, pour que ces choses vécues, qu'elle a vécues, elle, ne s'oublie pas. C'est ça son objectif principal. Et les temps ont changé, le mode de vie a changé, etc. Et donc, dans ces livres, on retrouve un peu la vie des villages, les habitudes, surtout côté femme, etc. Alors, à titre d'exemple, je vais citer quelques-unes de ces publications qui ont été éditées, tout ça. Alors, La noce d'Albertine, nous allons parler un peu de cet ouvrage. Le bal rétro, La monnaie du diable, Le Boisseau, et tout récemment, Les Tribulations d'une pomme gasconne au Salon de l'Agriculture. On devine qui est la pomme gasconne. Et le Salon de l'Agriculture, elle y a été plusieurs fois. Elle est aussi artiste peintre. Elle peint des fleurs, des paysages, depuis une quarantaine d'années. Et bon, comme elle le dit, c'est un concours de circonstances qui lui a fait découvrir cette voie. Et elle le confie dans son roman « La monnaie du diable », dont on reparlera dans un petit moment. Alors, Claudie Motte-Gotteron est également une militante de l'Association des écrivains et artistes paysans, l'AEAP, dont je voudrais rappeler l'adresse du site internet pour les auditeurs et auditrices qui voudraient avoir davantage d'informations. Alors, c'est www.écrivains au pluriel. Paysan au pluriel.com. Donc je répète www.écrivain avec s-paysan avec s.com. Alors sur ce site internet, on trouve pas mal d'informations sur l'association et sur nombre d'ouvrages qui ont été écrits par les écrivains paysans. Et cela constitue évidemment des témoignages de toute première valeur, si vous voulez. Claudie Motte est aussi un troubadour, car elle chante. En effet, elle a enregistré 2 CD dont elle est l'auteur des paroles et musique.
Alors, j'ai rencontré récemment Claudie Motte-Gotteron, qui va nous parler un peu des femmes paysannes en Gascogne. Mais avant de, disons, de parler de son œuvre, de ses, quelques-uns, disons, de ses écrits, on va lui demander de nous parler de la langue pratiquée en Gascogne dans les années, disons, d'avant la guerre, hein, ou même d'après-guerre, quoi. Hein. Bonjour Claudie.
Bonjour.
Est-ce que donc tu connais le l'occitan, tu pratiques l'occitan,
Moi, j'appelle ça le gascon. C'est le gascon de Nérac, celui de mes grands-mères.
Alors tu le parles bien, tu l'écris?
J'écris parfois, il m'est arrivé deux ou trois chansons, même presque toute une opérette, une grande histoire dans un village et quelquefois des poèmes.
Alors, est-ce que tu as un poème en occitan, en gascon?
En gascon, oui, j'ai un poème, là, la lingua de mon cœur.
Ah, tu peux nous le
traduire,
dire.
Ça veut dire la langue de mon cœur.
Ah, fantastique. Tu peux nous dire ce poème?
Oui. Oh mamai, tu que robazu da tortovimo, tu que parla ou aquero lingo, dambe tamai et tu nome, dambe lubesis et tu suspies. Da quero terro mairano, perché a giù n'as pas appres o gascun? Oh, che n'eri pas un gran discours a che debisa de cada jour, che y aveu lo por, e lo zapis, la vigno e lo casau, l'aigo du puche de la hun, lo zurtis, en de ha mingia lo zgitz, lo cabajun che devengeu o camot, e memo lo can de seguinot. À la bête, que savez-vous tout joue, un maroucade de ton coutillon, ce qu'avez-vous dit, un moussucuré de dimanche, le drôle de l'Andrea qui sert faingula pour le régien, et la teulade qui a cambia, ton nom qui a astius, et la grammaille qui disait-vous des joues, qu'en basse fa d'aquero drôle? Oh, aquero lingo, que bourriche de mon cap, que se boulego, que se tournejo, que tu sem la première que torno, et mei la bito se quillo, et se ma chante, et mei l'entene bruni a hum de jou, et quand passo mau, la sego de mus pots, d'amor la lingo de mon co.
Bravo, bravo.
Ouh, il y en a des choses là-dedans. Hein. Ça demande de traduction. Hein.
Oui, quelques mots.
Quelques mots, ouais. Oui. Elle dit, la petite fille, elle dit, tu t'es née à Tartifume, là, c'est près de Nérac. Tu parlais cette langue avec tout le monde, les voisins, ton mari et les anciens de cette terre Mairano. Alors, Mairano, c'est la terre mère, la terre natale. Pourquoi tu m'as pas appris le gascon à moi, hein? Ah ben, c'était pas un grand discours. Hein, chaque jour, il y avait les lapins, le cochon, la vigne.
Et le loup, le camp de Séguinotte, c'est
et
quoi
oui.
Ça?
Oui, alors le camp de Séguinotte, c'est le grand-père, il disait toujours ça. Le monsieur de Séguinotte, c'est un château à côté de Nérac. Ben, il était si pauvre qu'il était maigre. Et si le monsieur de Séguinotte était maigre, le chien encore plus. Alors, quand on disait, oh là là, il est bien maigre celui-là. Et mon grand-père répondait, tec, comme le camp de Séguinotte.
Ah, voilà, d'accord. Bon, maintenant, on va parler un peu de tes ouvrages. On ne va pas les prendre tous, mais on va prendre quelques-uns qui situent bien, disons, la vie des femmes paysannes en Gascogne. Alors, on va parler d'abord d'un livre qui s'intitule « Les noces d'Albertine ». Voilà. La noce d'Albertine, voilà. La noce d'Albertine. Alors, qu'est-ce que tu as voulu mettre dans ce livre? Qu'est-ce que tu as voulu, présenter? Est-ce que c'est vraiment une noce ou est-ce que c'est la vie des paysannes de l'époque? Enfin, dans quelle époque ça se passait, etc.
Bon, ben ça se passe, mon livre se passe après la guerre, le village, quand je suis consciente, quand je vois et j'entends, bien sûr. Mais C'est surtout, ça s'appelle la noce, parce que la noce d'Albertine, parce que c'était une histoire qui était commune à la famille de mon père, à la famille de ma mère. Alors quand ils se retrouvaient, plutôt que de parler de leur misère, de leur maladie, de leur deuil et de la guerre, ils se remémoraient cette fabuleuse noce, parce que c'était des paysans aînés, aisés, les parents d'Albertine, et ils avaient invité tout le village, puis Forteguille, et ils avaient ouvert les armoires, présenté le linge, et la mariée avait une somptueuse robe de ce temps-là. Voilà. Alors il se racontait cette histoire. Autrement, c'est inséré dans la vie de la petite fille. Elle est, tout bêtement, elle s'appelle Claudie, comme moi, parce que c'est moi, évidemment. C'est autobiographique, j'avais rien à ajouter. C'était tellement mignon, tellement coloré, tellement plein de choses.
Oui, alors, la vie du village, sans raconter ce qui se passe dans le livre, mais disons, les points saillants, les personnages, qu'est-ce que tu voulais mettre en valeur ?
Je voulais mettre en valeur la liberté des enfants. On était partout, les maisons étaient ouvertes, les portes étaient ouvertes, on rentrait chez toutes les grands-mères, même les gens un peu plus jeunes et un peu plus responsables, on rentrait chez eux, il n'y avait aucun problème, on gênait jamais. Et cette liberté, elle a disparu. Ces portes ouvertes, maintenant, elles sont fermées. Hein. On ne va plus chez les gens comme ça, n'importe comment. Bon, ça, je voulais bien, bien le raconter, parce que je trouve que ça a disparu.
Oui, mais les personnages qui vivent dans le village.
Ah ben, il y avait tout le monde, hein. Il y avait la sonneuse de cloche, il manquait une jambe, ça nous étonnait beaucoup. Le tonnelier qui faisait des tonneaux, il y avait l'instituteur, il y avait le prof de musique qui a appris la musique à tous les enfants qui ont voulu. Il y a eu au début, ben, quand j'étais toute petite, les réfugiés belges, les Lorrains, et ils sont revenus nous voir après. Enfin, ça continue, c'est toujours une, disons, des amitiés ou des relations humaines qui ont été fortes et qui continuaient. On était très liés, on se connaissait, on savait toutes nos misères et nos possibilités. Hein.
Il y avait beaucoup de réfugiés, ils étaient intégrés.
Ah oui, là, tout un village, hein, ça serait à écrire un grand roman, une saga. Tout un village, en Serville, en Lorraine, qui est venu complètement, à part une ou deux familles qui n'ont pas pu être logées à Bazens, hein, c'est Bazens dans le Lot-et-Garonne, mon village, en dessous d'Agen, sur la colline, et ils ont été absolument, pendant 4 ans, à vivre intégrés à la population, à tout partager. Oui.
Et le tonnelier, alors, le tonnelier, c'est un peu pittoresque, ça a disparu maintenant, il n'y a plus de tonnelier.
Eh oui, c'était mon papa, le tonnelier, il avait la boutique, elle était insérée elle-même dans le, disons, les contreforts de la forteresse, là, de l'abbaye fortifiée, sa boutique où il fabriquait des... Mais bien sûr, tout le monde avait un rang de vigne ou deux pour faire son vin à l'année. Donc il fallait un tonnelier pour faire des tonneaux. Puis ça, évidemment, c'est une civilisation abolie. Hein.
On refait quand même des tonneaux maintenant pour le vieillissement du vin, etc.
Mais il n'y en a pas un dans chaque village. Hein.
Voilà, c'est dommage. Bon, et l'instituteur alors, parce que c'est un personnage central dans les villages.
Dès qu'on va à l'école, l'instituteur ou l'institutrice, ça prend une place énorme parce que tout d'un coup, on va découvrir le savoir. Nous, on parle gascon à la maison, on a un français approximatif, mais tout d'un coup, c'est le livre qui apparaît, et puis on va pouvoir lire, compter, et puis tout ce qu'on va apprendre, la géographie, l'histoire. Donc c'est l'instituteur qui nous apporte ça, il nous apporte le monde. Alors moi j'avais un amour inconditionnel pour Monsieur Aguilar, mon instituteur. Je le nomme, et c'est tout à fait normal.
Et le prof de musique alors ?
Ah ça c'était un vieux monsieur qui était né là, dans le village, qui était parti professeur d'anglais et de musique à Mazamé, dites donc, et qui habitait après Toulouse, mais qui revenait tout le temps l'été. Il apprenait la musique à tous les enfants qu'il voulait. Voilà, Blandine et moi, on a été ses meilleurs élèves quand même. Et moi j'en ai fait quelque chose de la musique. Hein.
Ah ben c'est bien, oui, on va en écouter d'ailleurs. Merci.
Des chats m'épousent par là, de mon petit village, dans mes sous-mieilles casse-têtes, e sa sprau bo mai sus e tutta queste gens che me prengon lu cu quan cure vine sclaus capaz dus carelots de tutta queste gens che se tengan qui hat cum orai sur la terre che porten lu beret cat sus un caburut e un ue de bontat de lus ueis alucat che bogai ton de lui aco es mon pais aco es mon peisadie aco es mon sourei aco es mon biladie e vos parla tabe d'aquet petit mai nadie que seguisseu sa mai quei aiga la un uase botabio papiotos de boi de la vieio butico de son pai barricairo e da que rocanson di otro peroio juenesso anei dautes mai nat que corren las carrero en cridan en cantan en repoussant lo temps que nous mène tout dret, chen tambour ni tutet, de l'oulei de la terre tant aimado, base de son pays, corre de son paysadie, aima de son sourei, drome de son village.
Vous avez écrit un autre livre, Le Boisseau. Le Boisseau. De quoi ça parle ce livre ?
Alors, Le Boisseau, c'est l'histoire de l'agricultrice dans les années 60-70. Bon, ces jeunes femmes, filles de paysans, vont à l'école d'agriculture, mais elles se retrouvent comme leur mère après le mariage sur une exploitation et avec des enfants. C'est une vie tout à fait dans l'ombre. On n'a pas le loisir de faire autre chose. Et on n'a pas, disons, d'argent, et on n'a pas tellement le choix. Donc, c'est le boisseau, ça veut dire on est comme ça, enfermé, et on ne fait pas autre chose. Et cette souffrance, je l'ai tellement ressentie auprès de mes amis, qui étaient vraiment agricultrices, et même moi, en tant que mère de famille. Donc, j'ai créé un personnage, Marianne, qui souffre là, bien dans l'ombre, bien dans sa ferme et dans sa vie d'agricultrice.
Mais elle souffre, c'est une question morale. Oui, c'est une souffrance morale et aussi physique parce qu'il y a beaucoup de travail, etc. Mais ça, c'est un peu les relations dans le ménage, quoi, entre le mari, sa femme et un peu le statut de la femme dans la société.
À ce moment-là, oui. C'est à ce moment-là, c'était un peu comme ça partout. Donc ça m'a tellement frappée que j'ai voulu absolument témoigner de cette vie, à ce moment-là, voilà. Et alors le mari, lui aussi, il a fait les mêmes études, mais lui, il va, par les syndicats agricoles, par toute la vulgarisation agricole, il va devenir petit à petit un responsable, il y a les jeunes agriculteurs, etc., et puis il va devenir directeur d'une coopérative. Donc il va, lui, se sortir et devenir un monsieur qui travaille avec des secrétaires, etc. Tandis qu'elle, elle va continuer sur l'exploitation à essayer de faire bouillir la marmite. Et comme c'est très dur, alors il y a des anecdotes, bien sûr, hein, j'ai observé autour de moi tout ce que je pouvais pour parler en profondeur de cette vie, de cette femme, quoi. Elle va se trouver, c'est elle finalement qui va trouver le chemin pour son mari, parce que c'est elle qui a l'idée du poulailler, des poules pondeuses, et c'est lui qui va faire ça en grand, et c'est lui qui va créer une coopérative avicole avec des œufs. Donc c'est terrible, il lui prend son idée, mais elle reste en deçà, derrière, bon, un petit peu, à élever ses enfants, etc. Et c'est très humain et c'est très poignant, oui.
Oui, bon, c'est le statut de la femme qui est en retrait dans le ménage. Et bon, ça a changé, heureusement, mais disons, il y a une période, effectivement, où la femme ne se mettait pas en avant, quoi, ne prenait pas de responsabilité dans les coopératives, etc. Pourquoi ? Je ne sais pas, parce que ça ne se faisait pas.
Ben, elle le prend pas parce que elle s'invente le poulailler. Elle dit, je vais faire ça. elle le fait en petit, puis lui va le faire en grand. Donc c'est lui qui prend le dessus. Mais elle, il n'était pas pensable à ce temps-là. Bon, aujourd'hui, les jeunes femmes agricultrices, il y en a, ou bien elles sont très, très responsables, mais beaucoup, beaucoup sont femmes d'agriculteurs, institutrices, infirmières, secrétaires. Elles travaillent ailleurs pour avoir un salaire. Tandis que là, c'était pas encore arrivé, ça.
Bon, c'est un témoignage, c'est important, un témoignage sur une période, disons, les années...
De transition,
la période des années 60, quoi, sur la vie des femmes d'agriculteurs, quoi, les femmes paysannes. Bon, merci. Alors, vous avez écrit un autre livre avec un titre un peu disons, étonnant, qui s'appelle « La monnaie du diable ». Qu'est-ce que c'est que ce livre et pourquoi ce titre, La monnaie du diable ?
Eh bien, parce qu'il sort des sentiers pragmatiques, disons. Il est un peu dans le surnaturel. Il y a une héroïne, là, fille de paysan, hein, qui est un peu... Oui, dilettante, elle est mal partout, dans sa peau, elle ne trouve pas de métier, elle va soigner le grand-père pour faire quelque chose... Et la grand-mère disait d'elle qu'en bas fa da kerodrol, ba ou pasare. Qu'est-ce que tu vas faire? Elle disait à son père, de cette fille, elle ne vaut rien, elle ne sait rien faire.
Comment c'est? Comment ça se dit en gascon?
Qu'en bas fa da kerodrol, ba ou pasare.
Ça veut dire quoi ça?
Qu'est-ce que tu vas faire de cette fille? Elle ne vaut rien.
D'accord. Bon, et alors, on finit.
Cette Antonine, elle va chercher, on va la mettre chez les sœurs, elle va apprendre la cuisine, la couture, tout ça, mais en fait, c'est un peu, elle est vite dépassée, c'est terrible pour elle. Elle est pas bien, là. Donc après, le grand-père, il va lui dire, tu me soignes et on verra après. Bon, il y a toute une histoire de famille. Il y a une sœur, elle, qui est formidable, qui est belle, qui a pris la propriété des parents, qui travaille, qui gagne des sous. Et cette Antonine, elle est toujours en marge, quoi. C'est une marginale. Et puis, tout d'un coup, il va lui arriver la chose extraordinaire. C'est pour ça que ça s'appelle la monnaie du diable, parce qu'il va lui arriver... En fait, c'est un rêve. Dans un rêve, quelqu'un va lui révéler ce qu'elle peut faire. Et là... Ça va être le truc. Elle va se réveiller en disant « Mais j'ai jamais dessiné, j'ai jamais peint, jamais on m'a dit ça. Est-ce que c'est vrai ?» Et elle va se mettre. Donc elle va trouver son chemin. C'est pour ça que ça s'appelle la monnaie du diable, parce que c'est surnaturel. On peut pas prouver cette chose-là. On n'est même pas obligé d'y croire. Il lui est arrivé quelque chose qui arrive à d'autres, mais on peut pas dire voilà. Ben, pourquoi tu y as cru? Ben voilà. Alors elle y a cru et elle s'est mise. Alors là, bien sûr, un jour elle dit à son père, j'ai trouvé un stage. Il dit de quoi? De cuisine? Mais non, de peinture. Voilà, donc son père tombe des nues, patati patata, et puis finalement c'est ça qui va faire sa vie. Voilà, et elle va trouver l'aquarelle avec un professeur, un grand peintre qui est de Cordes-sur-Ciel dans le Tarn, Monsieur Capoux, qu'elle va admirer par-dessus, comme l'instituteur. Ça va être, il y avait l'instituteur dans le temps, on admirait, puis là le professeur d'abord de dessin, puisqu'il faut dessiner la rue qui monte, la rue qui descend, il faut avoir la perspective, et puis après il y a la couleur. Et alors là, la couleur, tout d'un coup, l'aquarelle dans l'eau, ça va se révéler et elle va... Et là, ça va être son chemin. Mais on ne gagne pas sa vie avec ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, elle va chercher. Et alors, c'est toujours ce... Comment dire? Ce surnaturel, cette communication avec ses ancêtres ou avec la prière ou avec n'importe... qui fait que je l'appelais la monnaie du diable. Parce qu'on ne sait jamais si c'est en bien ou si c'est en mal. Tout ce qui vient extra... qui vient dans les pensées, quoi, qui vient extra-prouvable, quoi. On ne peut pas prouver ces choses-là. Alors ça s'appelle la monnaie du diable à cause de ça.
Oui, c'est-à-dire, c'est une fille qui a finalement découvert sa voix, elle s'est découverte la voix d'un artiste, un don d'artiste, en fait, et elle arrive, enfin, contre vents et marées, à développer un peu sa compétence.
Où elle peut apprendre, oui. Avec qui elle peut apprendre. C'est, tout arrive comme ça, tout d'un coup, les chemins se font, et après, elle va en faire son métier. Mais son métier, on ne gagne jamais sa vie. Donc, il faudra trouver comment on gagne sa vie avec ça. Ça, c'est autre chose.
Hein. Mais ses parents, ils croient à l'artiste ?
Du tout, du tout. Alors, la mère, quand elle commence à faire des choses, qu'évidemment, ça ne marche pas, elle n'a vraiment pas un sou. Elle est vraiment marginale. Et alors, c'est le grand-père qui l'a aidé. Le grand-père, bon, il y a une autre histoire de famille, puisque le grand-père lui donne tout ce qu'il a pour qu'au moins elle ait un toit sur la tête. Et alors, quand un jour ça va pas, qu'elle a le cafard, sa mère la voit avec une trogne longue pas possible, et elle lui dit, mais enfin, artiste, artiste, mais il n'y a pas d'artiste dans la famille. Donc ça, c'est la réflexion de la mère tout à fait paysanne qui était en train de planter ses melons, voilà, c'est ça, ou ses fraises.
D'accord, donc c'est le livre d'une fille qui découvre qu'elle a des compétences d'artiste, mais qui n'est pas comprise par son milieu, quoi. Ok, merci.
Comme un éléphant, j'ai porté ma musique, traversé le désert, vécu à l'envers. J'écris, j'ai chanté dans le fond de mon cœur, marché en aveugle comme un fou rêveur, un poète, un enfant, une mouche qui pique. Je chante l'amour, l'attention, le partage, je regarde tes yeux, cherche l'étincelle. Je suis troubadour, le cœur dans les nuages, je sais ce que je veux, mais de quoi je me mêle. Je danserai jamais dans la cour des grands. Comme un éléphant, j'ai porté mes chansons, comme d'autres respirent avec ceux qui désirent. J'écris, j'ai chanté pour ce monde en folie. Je voulais tout changer, et les gens et ma vie. Comme un poète, un enfant, je veux arrêter le canon. Et je chante l'amour, une façon de donner. Retrouver dans tes yeux un je t'aime, un élan. Recréer tous enfin l'avenir main à main. Redire et chanter qu'on peut être heureux. Je danserai toujours dans la cour des enfants. Comme un éléphant, j'ai porté ma musique, traversé le désert et vécu à l'envers. J'écris, j'ai chanté dans le fond de mon cœur, marché en aveugle comme un fou rêveur, un poète, un enfant, une mouche qui pique.
Ecco, era la cronica di letteratura paesana presentata per Mahmoud Alaya.